le Nouveau Testament abonde en déclarations soulignant la toute-puissance de l'autorité du Christ. Il est le maître de l'univers comme il l'atteste lui-même. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et comme l'affirme aussi l'apôtre Paul, Dieu l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné comme chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. L'apôtre Paul nous fait même sentir combien cette autorité universelle du Christ touche de près la vie quotidienne de chaque chrétien. Par exemple, lorsqu'il dit « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Notons que cette exhortation semble n'exclure aucun aspect de la vie. Mais en quoi ces paroles nous concernent-elles? Une certaine mentalité moderne veut faire croire que la religion est affaire de spécialistes, qu'il faut laisser à ceux qui sont du métier. Ils décident et les autres suivent sans poser de questions. Rien n'est plus contraire à l'esprit du Christ que cette conception du christianisme. Se consacrer n'est pas le privilège exclusif d'une certaine élite ou d'une classe spéciale composée de prêtres, d'évangélistes ou de pasteurs. Le christianisme, c'est la religion de l'individu. C'est la religion de l'ouvrier, de l'artisan, de l'homme d'affaires. C'est la religion de toutes les couches de la société. Tous les hommes, quel que soit leur rang, leur naissance ou leur fortune, sont appelés à s'unir sous une même loi, dans un même itinéraire, vers le Dieu de la Bible. L'ouvrier qui exerce son métier 8 heures par jour peut servir son Seigneur au même titre que l'évangéliste qui prêche la parole et qui se consacre essentiellement au ministère de la parole. Car par son exemple, l'ouvrier est aussi appelé à prêcher l'Évangile. Par l'éloquence d'une saine influence, il attire lui aussi d'autres âmes au service du Maître. N'a-t-on pas dit maintes fois, et à juste raison, qu'un sermon vécu vaut mieux que 100 sermons parlés? Le Christ nous appelle tous autant que nous sommes, et qui que nous soyons. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Cet appel est universel. C'est une invitation à servir. C'est un appel à l'activité. Alors que bien souvent, nous avons l'impression que les chrétiens sont en train de stagner. Ils croupissent. Ils laissent aux autres le soin de résoudre les problèmes de l'évangélisation. L'apôtre Paul écrit « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit. Or, si nous sommes morts avec Christ, croyons aussi que nous vivrons avec lui. » Dans ce texte, qui paraîtra peut-être un peu hermétique, l'apôtre Paul rappelle avec passion l'engagement solennel que prend chaque chrétien le jour de son baptême. Vous êtes unis au Christ dans sa mort en descendant dans les eaux du baptême. Vous vous dépouillez de votre ancienne vie et vous surgissez de l'eau comme par une résurrection avec le Christ en nouveauté de vie. Vous êtes en quelque sorte greffé à Christ. Vous devenez une même plante avec lui. Vous participez à sa vie. L'apôtre Pierre nous dit même que nous devons être prêts à participer à ses souffrances. Il rappelle que c'est une bénédiction et un privilège que de souffrir injustement par motif de conscience envers Dieu. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu, et c'est à cela que vous avez été appelés. C'est donc votre vocation réelle, car Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces, lui qui n'a point commis de péché. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Prendre Jésus, le charpentier de Nazareth, comme modèle, c'est vivre de façon que l'on puisse dire avec l'apôtre Paul, « Christ est ma vie et la mort m'est un gain ». C'est faire de lui cette lumière qui éclaire et réforme les moindres aspects de notre existence. La Bible ne s'adresse-t-elle pas aux employés dans notre société moderne lorsqu'elle dit « Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur, et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. De même, la parole s'adresse aussi aux patrons. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard, et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux, et que devant lui, il n'y a point d'exception de personne. Mais comment peut-on arriver à une telle lucidité spirituelle? Ceci paraît utopique pour notre société moderne, d'autant plus que la Bible est loin d'être le livre de chevet le plus populaire. Les enseignements que nous venons de relever sont pourtant la solution de nos problèmes sociaux. Et il est important que chaque croyant sincère prenne conscience de ses responsabilités en tant que lumière du monde par le flambeau de l'Évangile. Sa force, il la puisera dans les Écritures saintes qui sont la source et la nourriture de la foi. Vous êtes régénérés par une semence incorruptible, dit l'apôtre Pierre, c'est-à-dire la parole. Et cette parole, c'est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. L'apôtre Paul écrit aux Colossiens, « Nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. » Parallèlement, l'apôtre Jacques s'exclame, « Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Or, comment un homme peut-il croître dans la connaissance de Christ? Comment peut-il être rempli de la connaissance de sa volonté s'il n'ouvre jamais la Bible, qui est le document de la volonté de Dieu? Quelle peut être la religion de ceux qui ne connaissent le Christ que par un sermon occasionnel ou par quelques discours de moralistes? La parole de Dieu est l'agent créateur, nourricier et protecteur de la foi. Il n'y a pas de croyant sain et durable sans un contact avec la Bible. C'est elle qui conserve au chrétien sa lucidité spirituelle. C'est elle qui le guide dans son sacerdoce. Et c'est bien là le mot qui décrit le mieux la vie chrétienne selon la Bible, un sacerdoce. Qu'est-ce qu'un sacerdoce? Nous savons que ce mot indique la dignité et les fonctions d'un ministre du culte qui agit généralement en qualité de trait d'union entre Dieu et le reste des fidèles. Dans l'Ancien Testament, cette fonction était exclusivement réservée aux fils d'Aaron. Avec l'avènement du Nouveau Testament, le sacerdoce s'étend à tous les chrétiens, c'est-à-dire que chaque chrétien a désormais la possibilité d'accéder lui-même auprès de Dieu par Jésus-Christ, car il est notre seul médiateur. Le sacerdoce n'est donc pas, le privilège exclusif d'une classe spéciale dans l'Église, mais la propriété de tous les fidèles. Il est vrai qu'il y a dans chaque assemblée de l'Église des anciens et des diacres, mais ils ne sont pas des intermédiaires entre Dieu et les fidèles, mais des guides, des gardiens spirituels. Il y a une énorme différence. Entre l'homme et Dieu, il n'y a plus que Jésus-Christ. Chaque fidèle est responsable devant Dieu, car le sang du Christ a coulé pour chaque homme en particulier. Dans ce contexte biblique, il s'avère nécessaire de réviser, voire de rejeter certaines conceptions du sacerdoce chrétien. Dans le Nouveau Testament, la vie chrétienne n'est pas un aspect détaché de l'existence, elle en imprègne tous les moments. Dans ce sens, nous sommes tous des prêtres devant Dieu, en tant que chrétiens. Et Jésus est notre grand prêtre ou souverain sacrificateur. Sur ce point, je vous encourage à lire Hébreux chapitre 7, 8, 9 et 10. L'apôtre Pierre établit le parallèle entre les offrandes matérielles que les prêtres offraient à Dieu au nom du peuple, sous l'économie mosaïque, et les offrandes spirituelles que chaque chrétien est tenu d'offrir à Dieu aujourd'hui. Il écrit « Comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Quels sont ces sacrifices? Quelles sont ces victimes spirituelles agréables à Dieu? Pierre ne le dit pas, mais d'autres lettres apostoliques nous donnent des exemples précis. Cela peut être l'exercice et le fruit de l'apostolat, ou l'aide pécuniaire pour le travail d'évangélisation. Ainsi, Paul remercie les Philippiens de l'avoir aidé dans son ministère. Il précise cependant, « Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant ce qui vient de vous, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Les sacrifices du sacerdoce de chaque chrétien consistent aussi en prière, en louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse le nom de Dieu. Le même texte ajoute « Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » C'est peut-être dans la lettre aux Romains que la Bible exprime le plus clairement cette notion d'offrande dans le sacerdoce chrétien. Et c'est avec cet extrait du chapitre 12 que nous conclurons notre étude. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu. C'est là le culte spirituel que vous avez à rendre. Et ne vous modelez pas sur le monde présent, mais que le renouvellement de votre jugement vous transforme et vous fasse discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. »